Bonsoir à tous. Ben, je vais commencer par... Je ne sais pas si je dois faire immédiatement ça, vous souhaiter la bienvenue, puisque c'est la dernière séance, donc probablement vous êtes des habitués, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc ce soir, on aura le plaisir d'écouter Marie-Thérèse Isaac. Alors, on se connaît depuis longtemps, et donc, normalement, j'ai pas besoin de papier, mais quand même, pour être sûr de ne pas me tromper, elle m'a fait parvenir, effectivement, quelques petits points qui sont importants. Donc, elle a été professeure et, je dirais aussi, doyen de la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation. Et ses centres d'intérêt étaient tout à fait centrés sur ce dont elle va nous parler ce soir. Peut-être pas entièrement, elle n'aura pas l'occasion de nous balayer tous ses centres d'intérêt, mais enfin, elle a toujours travaillé sur l'histoire de l'éducation et sur les tenants aboutissants, le contexte historique de l'histoire d'éducation. Elle a dirigé le séminaire de bibliographie historique et elle a donc enseigné dans ce domaine. Alors, elle était aussi présidente du conseil de la bibliothèque. Et je dois dire, à ce niveau-là, tout le monde à l'UNIF la connaît parce qu'on sait à quel point Marie-Thérèse était vraiment, par rapport à tout ce qui est précieux dans les fonds qui se trouvent dans la bibliothèque de l'université, à quel point elle les aimait. Et donc, elle se comportait par rapport à ces fonds précieux vraiment... Est-ce que je peux dire comme une tigresse par rapport à ses petits, parfois ?
Non.
Moins agressivement. En tout cas, comme quelqu'un qui était fondamentalement attaché. Et donc, elle a travaillé dans ce domaine-là. Elle a beaucoup publié, notamment, à propos de l'éducation, un travail sur l'école centrale du département de Jemap 1798-1802, qui, effectivement, est l'institution qui a donné lieu à ce qui est aujourd'hui la bibliothèque centrale de l'UNIF. Bon, je crois que moi, je ne vais pas être plus long et je vais immédiatement lui céder la parole.
Merci. Voilà, je compte utiliser ce plan. Peut-être, à certains égards, je ne m'attarderai pas. Mais j'ai aussi, parce qu'au début de mon exposé, viendront plusieurs noms. Et voici les noms que j'évoquerai. Et ils se succèdent dans la suite de l'exposé. Donc, je n'irai pas au troisième et puis au premier, etc. Ça se succédera comme ça. Bien. Voilà. Notre société est profondément marquée par les nouvelles techniques de diffusion des idées et des connaissances. Nous comprenons donc fort bien qu'au milieu du XVe siècle, l'introduction de la typographie, plus communément appelée l'imprimerie, a joué un rôle considérable dans la vie de nos prédécesseurs. Elle a joué un rôle, elle continue d'ailleurs de jouer ce rôle dans les domaines de la vie publique et privée. On considère trop souvent les nouvelles techniques comme allant de soi. Or, il convient de ne pas oublier le travail de ceux qui ont permis ce bouleversement et leur accorder la place qu'ils méritent dans notre société actuelle. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on oublie trop souvent le travail de ceux qui ont permis tous ces bouleversements techniques. Voilà pourquoi le diaporama a été fait par un collègue, Alain Lechien, et je le remercie de m'avoir aidé dans cette circonstance. Avant le XVe siècle, n'imprimait-on pas déjà ? Oui, on imprimait déjà. Les Chinois ont commencé, dès le IIe siècle, à imprimer en gravant une pierre plate. Celle-ci était ancrée et ensuite on essuyait l'encre. L'encre restait dans les creux, on appliquait du papier. C'est une première façon d'imprimer. Mais alors, les Chinois ont été les premiers aussi à utiliser la xylographie ou gravure sur bois. Et cela a une importance considérable parce que chez nous aussi, mais environ 900 ans plus tard, 800-900 ans plus tard, on a commencé à utiliser aussi la xylographie ou gravure sur bois. La Chine l'utilise dès le VIe siècle, mais les premiers témoignages qui nous restent dans des bibliothèques occidentales datent du 8e siècle. Et en Europe donc occidentale, la xylographie est arrivée dans le dernier quart du XIVe siècle. On imprimait, le même phénomène s'est produit en Chine et chez nous. On imprimait des images bouddhiques d'une part, des images pieuses chez nous, puis des images bouddhiques accompagnées d'un texte, même chose chez nous. Et enfin, chez nous, il y a des xylotypes qui ne contiennent que du texte. Voici tous les exemples, la plupart. 90%, 90% sont des ouvrages de la bibliothèque. Voici un xylotype qui est remarquable. D'abord, c'est remarquable parce que c'est un xylotype conservé, mais il est particulier parce qu'il est à la fois en latin et en flamand. Il date de la, plus ou moins, vers le milieu, le quart, le dernier quart du 15e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce xylotype ? Donc, on a une planche de bois et à l'aide de ciseaux, on doit graver pour mettre en relief le dessin et l'écriture. Et avec ça, on peut multiplier, l'imprimer. Mais, parce qu'imprimer signifie presser, hein, donc on a des imprimés de toutes sortes de façons différentes. Mais chez nous, donc en Europe occidentale, la xylographie ne permet pas d'utiliser les deux côtés d'une feuille. On imprime sur un recto, pas sur le verso, parce qu'on doit appuyer tellement fort que l'image et le texte imprimés sur le recto se marquent sur le verso. Donc, ce n'est que le recto, ce qui n'était pas le cas en Chine, parce qu'on utilisait un papier, une espèce de papier de riz très fin, il suffisait de frotter doucement, et ça suffisait. Donc, on pouvait fabriquer des milliers d'exemplaires, ce qui n'est pas le cas chez nous, parce qu'en appuyant, non seulement il y a cette marque de l'autre côté, mais on abîme aussi le bois. Encore une autre page, donc c'est phylactère, les dessins. Vous voyez, c'est fait au ciseau ou au couteau. Hein. C'est assez surprenant. Les caractères mobiles, là encore une fois, ce sont les Chinois qui ont commencé dès le XIe siècle. Ils sont en terre cuite et en bois, puis vers le XIVe siècle, en cuivre. Et l'utilisation du cuivre, du bois, de la céramique avait des usages spécifiques. L'empereur, les riches bibliophiles se réservaient le cuivre. Pour les autres, il y avait des documents administratifs en bois ou en terre cuite. Et en Europe occidentale, l'invention des caractères mobiles reste fort discutée. Dès le début du XVe siècle, cependant, les progrès de la technologie allemande en matière de métallurgie de précision sont considérables. On a fabriqué dans la région de Nuremberg des clous, des serrures, des horloges. Et tout cela va jouer un rôle, bien sûr, dans l'invention de Gutenberg. D'autre part, c'est aussi la région où on exploitait des mines. La Bohème, toute proche, se développait économiquement grâce à l'exploitation des mines et aussi le Steiermark à tout près. Donc, Gutenberg était manifestement imbibé de cette formation et évidemment, cela a joué un rôle considérable dans son invention. Mais je ne résiste pas au plaisir ici de vous lire cette lettre de Guillaume Fichet adressée à Robert Gaguin au début des années 1470. C'est Guillaume Fichet et un autre qui ont introduit l'imprimerie à Paris, à la Sorbonne. La restauration des études des humanités devra un puissant foyer de lumière à une nouvelle espèce de librairie sortie de la Germanie comme des flancs d'un cheval de Troie pour se répandre sur tous les points du monde civilisé. C'est en effet aux environs de Mayence, dit-on, que vivait ce Jean, surnommé Gutenberg, qui, le premier, a inventé l'art de la typographie, grâce auquel, sans emploi de roseau ou de plume, mais au moyen de caractères métalliques, des livres sont fabriqués rapidement, correctement, élégamment. On a bien divinisé Bacchus et Cérès pour avoir appris à l'humanité l'usage du vin et du pain, mais l'invention de Gutenberg est beaucoup plus agréable, beaucoup plus divine, puisqu'elle nous a donné des caractères à l'aide desquels tout ce qui se dit ou se pense peut être immédiatement écrit, réécrit et livré à la mémoire de la postérité. Je trouve que c'est un texte vraiment remarquable. Donc, Johann Gensfleisch dit « Gutenberg est né vers 1400 et mort vers 1468 ». Il est issu d'une famille patricienne de Mayence. Son père était négociant en draps, peut-être aussi a-t-il exercé des fonctions à l'hôtel des Monnaies. Et il a pris, selon la coutume, le nom d'une des maisons que possédait sa famille, Zum Gutenberg. Et, mais entre 1434 et 1444, on le sait à Strasbourg, parce qu'il a dû fuir sa ville natale, il y avait eu des conflits entre patriciens et corporations. Et sans doute que ce jeune homme bouillant et de bonne famille a eu quelques problèmes et il s'est installé à Strasbourg. Strasbourg, n'oubliez pas, c'est un pays de langue allemande aussi. Et de 1434 à 1444, donc à Strasbourg, il est connu grâce, il faut bien le dire, à tous les procès auxquels il a été mêlé. Et il y a un procès, on lui demande de fournir des secrets concernant l'art nouveau. L'art nouveau. Il est question de polissage de pierres précieuses, semi-précieuses, de fabrication de miroirs, qui sont des alliages d'étain, de cuivre et peut-être aussi d'antimoine, de forme, peut-être en bois, pour l'impression de cartes à jouer. C'est quelque chose qui joue un rôle important, les cartes à jouer. Et aussi, il est question d'une presse, mais on ne sait pas ce que cela signifie. Alors, je reviens un peu sur les miroirs, parce qu'il y a deux choses possibles. Vous savez, quand on imprime à l'envers. Donc, pour voir, un compositeur, pour voir s'il n'y a pas de faute, il peut mettre un miroir, il a le texte à l'endroit. Mais aussi, les miroirs servaient dans les processions. Parce que parfois, on voit sur la grande place à Mons, au moment du doudou, des gens qui ont un miroir pour regarder ce qui se passe. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais quand des processions passaient, quand on ne pouvait pas toucher la relique, on regardait comme ça dans un miroir et on recevait soi-disant les mêmes grâces que si on avait touché les reliques. Enfin, voilà. Donc, miroir, il y a peut-être deux possibilités, mais je n'ai pas de solution. Et comme Strasbourg a été sévèrement endommagé, comme vous savez, en 1870, on ne trouvera plus d'informations à ce propos. Il a manifestement travaillé à son invention dans cette ville, mais on ne sait pas ce qu'il y a fait, et dans tout état de cause, il n'y a pas de témoignage. On ne trouve pas de trace du personnage de 1444 à 1448, année au cours de laquelle il revient à Mayence et il s'associe à un riche bourgeois, un banquier, Johann Fust, qu'on dit aussi peut-être juif. Et ce dernier lui donne de quoi monter son entreprise. Et il est bien indiqué dans les textes « Zum Werk der Bücher », pour l'œuvre des livres. Bon. Et de 1450 à 1556 environ, il imprime des calendriers, des donnas qui sont des grammaires élémentaires du nom du grammairien du IVe siècle, des lettres d'indulgence, qui sont des documents composés donc d'un seul feuillet, et la célèbre Bible à 42 lignes, qui est le premier livre imprimé au moyen de caractères mobiles. Quel est le tirage? Bon, peut-être 180 exemplaires, 150 sur papier, 30 sur vélin, peut-être. C'est alors que Fust lui intente un procès. Voilà le deuxième que nous connaissons. Gutenberg ne pouvait vraisemblablement pas rembourser sa dette, selon les termes du contrat qui avait été conclu entre eux. Et les quelques mentions de son nom qu'on a encore ne permettent pas de penser qu'il a installé une autre imprimerie. Son nom est peut-être lié à la Bible à 36 lignes, publiée à Bamberg. Mais en tout cas, on connaît quand même quelque chose. Il n'est pas mort dans la misère. L'archevêque de Mayence, Adolphe de Nassau, l'a anobli pour service rendu, bon, probablement pour l'impression. Mais alors, ici, il y a quelque chose d'assez curieux qui se passe parce que Fust a été très vite identifié à Faust. Parce que l'imprimerie s'appelle aussi Deutsche Kunst. Ou Schwarze Kunst, l'art noir. Alors, c'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il est vrai qu'il y avait un Faust en Allemagne de la fin du XVe jusqu'au milieu du XVIe siècle. Et dès 1587 apparaît une première version de ce thème où le certain Faust en question vend son âme à Méphistophélès pour obtenir des biens terrestres. Et en 1588, l'auteur anglais Marlowe reprend le thème, et évidemment au début du XIXe siècle, c'est Goethe qui reprend aussi le terme de Faust. Mais cette invention était dans l'air du temps. Il y a plusieurs personnages qui entrent en jeu. Et voici, après le témoignage des Chroniques von der Heiligen Stadt von Köln, publié en 1499, « L'art admirable de l'imprimerie a été inventé d'abord en Allemagne, à Mayence, sur le Rhin. Cela arriva vers l'an du Seigneur 1440, et depuis ce temps, jusqu'à l'an 1450, cet art fut perfectionné. La première ébauche a cependant été réalisée en Hollande, dans les premiers donats qu'on imprimait avant ce temps. » Alors, ces donats ont été attribués plus de 100 ans plus tard, à un certain Lorenz Jansson Dikoster de Haarlem. Et cette indication figure dans Batavia, la chronique de Hollande, écrite par Adrien de Jong vers 1460 et publiée vers 1560, pardon, et publiée en 1588. Et il est dit qu'un des domestiques de Coster aurait volé des caractères, les aurait portés à Cologne puis à Mayence. Et là, Gutenberg aurait profité de cette invention en Hollande. On n'a aucun témoignage, et de toute façon, s'il y avait des caractères, ils n'étaient pas en métal, ça c'est certain. Et dans le courant du XVIe siècle, la paternité de l'invention a été attribuée encore à d'autres personnes. Parce que lorsque Johann Fust, qui a donné de l'argent à Gutenberg, met Gutenberg dehors, il reprend l'atelier et les travaux en cours avec Peter Schoeffer, qui avait travaillé avec Gutenberg, son collaborateur. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui non plus Peter Schoeffer. Il a fréquenté une faculté des arts à Paris, puis il est retourné chez lui, à Mayence, et préparer, recopier les textes avant l'impression. Et Peter Schoeffer et Johann Fust s'associent donc, et le fils, Peter Schoeffer, évidemment, il épouse la fille de Fust, ben, tout le bien reste dans la famille, et le fils, Johann Schoeffer, 40 ans plus tard, dit « non, c'est pas Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, c'est mon papa et mon grand-père. » Bon, mystère, c'est pas tout. Il y a aussi le premier imprimeur de Strasbourg, Mentelin, qui était en même temps que Gutenberg à Strasbourg. Et son petit-fils, un imprimeur Schott, dit « ce n'est pas Gutenberg, c'est mon grand-père Mentelin qui a inventé les caractères mobiles et et comme Gutenberg était là à travers avec lui, Gutenberg les a pris, il est parti à Mayence. » Bon, voilà toute une affaire qui se passe autour de l'invention des caractères mobiles. Mais il y a quelque chose d'un peu différent. Il y a Prokop Waldvogel qui est originaire de Prague, qui a été formé au travail du métal à Nuremberg. Probablement suite aux guerres russes, il a quitté la région, s'est installée en Avignon. Et là, il y a des contrats par lesquels il s'engage à enseigner l'art d'écrire artificiellement, d'où le nom du titre que j'ai, partie du titre que j'ai donné. Il est question de lettres. On ne sait pas si elles étaient destinées à être assemblées pour former des phrases, des textes, ou si c'était simplement des lettres qui étaient juxtaposées pour une inscription, par exemple. Et Gutenberg était manifestement au courant de l'activité de Waldvogel parce que lorsqu'il était à Strasbourg, il a été en contact avec quelqu'un qui était aussi en contact avec Waldvogel. Voilà, ça c'est le mystère complet. Bref, l'invention est arrivée à maturité dans à différents endroits. Et une seule chose est concrète, c'est Gutenberg qui nous a laissé des témoignages concrets de son invention et des preuves concrètes de l'application de cette nouvelle technique. Et voici cette Bible, une partie de la Bible de l'université. En fait, la Bible a 42 lignes. Dans le jargon du métier, on l'appelle la B-42. Comme il y avait des bombardiers avant, B-52, ça c'est la B-42. Notre exemplaire, qui est un volume sur trois, est un peu particulier parce qu'il est peut-être, je ne dirais pas unique, mais très rare, parce que du recto, du premier, du folio 1 recto jusqu'à 5 recto, il y a 40 lignes. 5 verso, 41 lignes. À partir de 6 recto, 42 lignes. Je ne me trompe pas. C'est plus bon. Voilà. Bon, je passe sur les foyers d'imprimerie et j'en reviens à quelqu'un donc de chez nous, puisque bon, l'imprimerie est arrivée très vite chez nous, puisque 1473, avec Thierry Martens, il est né vers 1446-47. Vous êtes en train de compter, là. Oui. Bon. Vérifiez. Bon. Il est né dans une famille aisée d'Alost. Il a fait des études au sein d'une communauté religieuse et c'est là qu'il va se retirer à la fin de sa vie en 1534. Il a aussi séjourné en Italie du Nord. C'est un fils de bonne famille et on poursuit ses études. On va vers la France, vers le Grand Tour en Italie. Et là, il a certainement fréquenté une faculté des arts. En tout cas, c'est dans ce pays qu'il a appris son métier, sans doute à Venise, une métropole commerciale et culturelle qui donnait de l'emploi à des jeunes gens instruits, comme l'étaient les bacheliers arts. Ils pouvaient travailler comme correcteurs dans une entreprise ou, après un certain apprentissage, comme compositeurs. C'est aussi à Venise qu'il a rencontré Jean de Westphalie, qui va jouer un rôle considérable dans l'imprimerie à Louvain. En tout cas, Thierry Martens, en Italie, est entré en contact avec l'humanisme florissant. Il rapportera de là-bas des idées très, très avant-garde. Et il conservera d'ailleurs pas mal de contacts avec la péninsule. Il est de retour à Lost, sans doute, vers 1472, avec Jean de Westphalie. Et en 1473, il ouvre un petit atelier. Ceci a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a dit, et surtout à Lost, il était seul. Dans d'autres cas, il a travaillé avec Jean de Westphalie. Mais en tout cas, maintenant, le doute peut être levé parce qu'ils ont bien travaillé à deux, mais au début, ils ont oublié d'indiquer leur nom sur la première publication. Et dans les autres publications, il y a imprimé à Alost en 1473, donc le lieu d'impression et la date. Pas encore les noms des imprimeurs, ça viendra après. Mais quand ils indiquent leur nom, c'est indiqué sur la page de titre avec son associé, Jean de Westphalie, avec son associé Thierry Martens. Et cette expression-là, avec son associé, lève le doute, parce que cette expression figure dans tous les imprimés vénitiens lorsqu'il est question d'une association financière. Et Jean de Westphalie, d'une génération, et demie, plus âgée que Thierry Martens, avait de l'ascendant sur lui. Puis, Jean de Westphalie, son but, c'était de s'installer à Louvain, dans une ville universitaire. Et il devait montrer son savoir-faire. Donc, il a travaillé dans l'atelier de son ami à Alost, et puis il a montré son savoir-faire à Louvain en mai 1474, et en juin, il est immatriculé à l'université de Louvain. Il y a ici tout autour beaucoup de choses. Je reviendrai si vous me posez la question, parce qu'on a dit qu'il y avait eu un Jean de Paderborn, etc. Maintenant, qui est devenu Jean de Westphalie, il y a bien eu deux personnages. Et ça, c'est tout nouveau. C'est toutes ces recherches datent d'il y a 2 ans. Mais donc, pourquoi a-t-il choisi l'atelier de son ami? Pour pouvoir montrer son savoir-faire à Louvain, et lui seul, venant de pays germaniques, n'avait pas cette possibilité. Jean de Westphalie est à la fois libraire et imprimeur, ce que feront beaucoup. Et il a offert une production diversifiée qui répondait à la clientèle universitaire. Bien sûr, il a imprimé des pères de l'Église, bien sûr, il a imprimé du droit canon, mais aussi du droit civil, des humanistes, des auteurs de l'Antiquité. On a dit pendant très longtemps, quand au début qu'on a imprimé, on a imprimé que des choses qu'on connaissait depuis longtemps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ceci est aussi un exemple qui prouve que ce n'est pas vrai. C'est un texte d'Ennea Silvio Piccolomini qui est devenu pape ultérieurement dans la deuxième moitié du XVe siècle. Donc, c'est un témoignage montrant que ce n'est pas vrai. On n'a pas imprimé que des choses consacrées depuis longtemps. Après 1474, on perd la trace de Thierry Martens. Mais en 1477, les rois catholiques accordent à un certain Teodorico Allemand un privilège lui permettant d'importer des livres sans droit de douane et interdisant aussi qu'on porte atteinte physiquement. Ce Teodorico Allemand est qualifié d'impressor libros. Est-ce qu'il s'agit de Thierry Martens ou pas? Certains disent non, il est allé après 1474, il est allé retourner en Italie. La preuve en est qu'il a à nouveau utilisé d'autres caractères vénitiens après. Mais vous savez, d'Espagne, un Allemand, un Teodorico Allemand, c'est le mort, hein, c'est tout. D'autant plus que début juillet, nous étions à un séminaire à Anvers, université d'Anvers, séminaire d'histoire du livre, et la personne qui a occupé toute la journée, elle nous avait donné 2 textes à lire pour préparer. Et après, je lui ai dit en privé, pas en public, parce qu'en pays flamand, je n'osais pas. Je lui ai dit, pourquoi dites-vous que Marimont, c'est le beau ciel de Flandre? Le beau ciel de Flandre à Marimont, c'est un peu curieux. Et il m'a dit, oui, mais enfin, pour nous, la Flandre, c'est tout ça. Or, ce bonhomme est né à Tourcoing, donc il est quand même tout près. Hein, c'est un peu fort, hein, ça, le beau ciel de Flandre à Marimont. Bon, il ne fallait pas parler de ça devant tout le monde en public, il valait mieux se taire. Il y a peu aussi d'informations sur le sujet suivant. Il aurait rencontré Christophe Colomb à Murcie. Et Christophe Colomb s'occupait probablement de vente de portulans. Peut-être. Mais on ne sait pas. Mais il y a un fait, c'est que quand Thierry Martens revient dans les Pays-Bas, s'installe d'abord à Los puis à Anvers. Et en 1493, il publie la lettre de Christophe Colomb qui annonce sa découverte. C'est un fait, ça. Bon, 4 feuillets annonçant sa découverte. Alors, est-ce qu'ils se connaissaient ou pas? Je ne sais pas. Voyons les choses précises. Thierry Martens est aussi un lettré, donc il a fait des études dans les Pays-Bas, puis est allé en Italie, je vous ai dit sans doute, a-t-il fréquenté une faculté des arts, et il a publié aussi après toute une série d'ouvrages, et dans des adresses qui figurent en tête des livres, une adresse au lecteur, qui peuvent être rédigées par lui-même ou par l'imprimeur, mais en tout cas, de toute façon, il donnait sa caution. Voici ce qu'il dit dans une préface au colloque d'Erasme. « Ce qu'il me reste de temps libre, en dehors de mes activités professionnelles, je les mets au service de ceux qui travaillent à l'approfondissement de la culture. Quand j'ai vu combien de professeurs compliquent la vie de jeunes enfants avec des règles de grammaire compliquées et privées de vie, j'ai réédité un petit livre de dialogue tout à fait approprié à la conversation quotidienne. Je le publie ici, dans une version corrigée en plusieurs endroits et enrichie, car la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la parler. Ça, c'est en 1519. Voilà, Thierry Martens. Il a aussi complété, modernisé un dictionnaire latin-néerlandais. Alors, au XVe siècle, dans la Belgique actuelle, il y a quand même plusieurs imprimeries qui naissent, hein, notamment en Anvers, en 1481, qui va avoir au XVe siècle une renommée considérable. Mais je vais quand même vous parler de Bruges, parce qu'à Bruges, il y avait Collard Mention, qui dirigeait un atelier de copistes, pour les recopier, il faisait enluminer des textes pour les riches bourgeois de Bruges. Et voilà, l'imprimerie, il s'est reconverti. Il dirigeait un atelier de copistes, chômage, et il s'est reconverti dans l'imprimerie. Hein? Bon, comme des gens se sont reconvertis aussi, plus récemment, dans la vente, l'informatique, etc. On se reconvertit. Et il a publié 24 ouvrages, dont 21 en français, publié pour la bourgeoisie de Bruges, bien sûr. Et voici, ici commence Ovide de Salmonen, son livre intitulé « Les Métamorphoses », contenant 15 livres particuliers et moralisés, etc. Mais il n'a pas fonctionné pendant très longtemps, parce que ceci, on le verra plus tard, des illustrations, ça vient grever considérablement le prix de revient. Oui, aussi ici. Enfin, oui, à Bruges, il y a aussi William Caxton. Tout ça pour vous dire que les premiers imprimeurs, ce ne sont pas uniquement des techniciens. Ce sont des gens à l'envergure intellectuelle assez remarquable. Et William Caxton est un Anglais. Il est installé à Bruges, qui était le centre du commerce anglo-flamand. Il avait aussi une mission diplomatique à la cour de Bourgogne. Il a même traduit du français en anglais pour sa compatriote, Marguerite d'York, qui était la duchesse de Bourgogne, le recueil des histoires de Troie de Raoul Lefèvre. Puis il est rentré chez lui. Mais on ne sait pas lequel des deux a imprimé pour la première fois à Bruges. Les deux en même temps, enfin on ne sait pas, ça on ne sait pas. Voici comme encore un exemple de la fin du XVe siècle, 1496-98, le second volume de la Bible historiée en français. Nous sommes à la fin du XVe siècle et voici déjà une page de titre, ce qui n'est pas le cas des tout premiers imprimés. On commence directement et on ne voit pas d'ailleurs de lieu d'impression, de date, etc. Le lieu d'impression, l'imprimeur, se trouvera au colophon, c'est-à-dire à la fin du livre. Et un peu à la fois, toutes les indications du colophon reviendront aussi à la page de titre. Donc le second volume de la Bible historiée en français. Voici le colophon, et c'est ici, je vais le montrer plus grand, qu'on a l'information. À l'honneur et louange de la Benoîte Trinité de Paradis, a été imprimée cette Bible en François historié pour Antoine Vérard, libraire demeurant à Paris, sur le pont Notre-Dame, à l'image de Saint Jean l'Évangéliste, ou au palais, au premier pilier devant la chapelle, où l'on chante la messe de messieurs le président. Donc voilà, on ne peut pas le rater. Il est là. Voici pour Antoine Vérard. Ça signifie qu'Antoine Vérard, il n'a pas imprimé lui-même. Il a fait fonction d'éditeur, il a choisi quelqu'un pour imprimer. Mais quand il y a un éditeur, il choisit un imprimeur, il paie l'imprimeur, c'est fini. L'éditeur a tous les bénéfices, et aussi, s'il y a des pertes, toutes les pertes. Mais l'imprimeur, lui, il est payé, point final. Alors, je vais passer maintenant à la révolution de l'imprimé. Donc, le premier changement, bien sûr, c'est la multiplication des exemplaires. Hein, ça, on le sait bien. Deuxièmement, l'organisation commerciale. L'imprimé nécessite la création d'un commerce où joue la loi de l'offre et de la demande. Et il faut vendre. Il faut non seulement imprimer, mais il faut vendre, sinon c'est la faillite. Hein. Et pour vendre, il faut un réseau commercial. Pour vendre, il faut estimer quels seront les goûts du public, quel est le livre qui va bien réussir ou pas. Estimer le tirage, calculer le prix de revient, tout ça nécessite des formations spécifiques. Et c'est souvent cela, cette fonction-là, que prendra l'imprimeur. L'éditeur. Alors l'imprimé entraîne une présentation plus rationnelle du texte. Donc on a des caractères petits, plus grands pour les titres, on va aérer, avoir des interlignes, tout ça c'est une présentation plus rationnelle. Et aussi commence l'ordre alphabétique un peu plus rigoureux. Parce que comme vous savez, quand il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jean, alors il y a des gens, des Johannes, où il y aura un avec I, avec J, avec H, sans H, avec un N, avec deux N, et tout ça se mélange. Donc, l'ordre alphabétique rigoureux est quelque chose d'important pour s'y retrouver. Et si on regarde la matricule de l'université d'Oxford au XIIIe siècle, il y a une quantité invraisemblable de Richard. Ils s'appellent tous Richard, pratiquement. Voilà. Alors, oui, il y a une chose assez curieuse, la correction. Parce qu'on travaille vite dans une imprimerie et on doit corriger. Parfois, on n'a pas corrigé correctement. Et finalement, grâce à l'imprimerie, intervient l'erratum. Les errata naissent aussi à ce moment-là. Mais alors, il y a quelque chose de curieux, c'est bien connu. C'est un exemple du début du XVIIe siècle, mais enfin, je vais le montrer parce que c'est très amusant. Dans une Bible en anglais, on a négligé une négation. Alors, au lieu de « tu ne commettras pas l'adultère », c'est devenu « thou shalt commit adultery ». Bon, je ne l'ai pas vu personnellement, mais c'est bien connu. Le note n'a pas été corrigé correctement. Bon, je vais l'enlever parce qu'on ne sait jamais. Des gens distraits. Voilà, je vais remettre ceci. Donc, les corrections, les erratum, les errata, c'est quelque chose d'important. Alors, la constitution du savoir, ça, c'est l'élément vraiment capital. Une fois imprimé en nombreux exemplaires, le texte est soumis à des tas de gens, et ces gens vont réagir. Et c'est surtout flagrant dans le domaine des sciences, mais dans d'autres aussi. Par exemple, Robert Estienne, dans la préface au lecteur de son dictionnaire latin-français en 1543, il invite ses lecteurs à lui signaler ses erreurs, ses omissions. Mais attention, il ne suffit pas de dire « vous avez oublié ça, vous vous êtes trompé là ». Il faut fournir les indications indispensables permettant à Robert Estienne de retrouver l'information. C'est capital, ça, il faut donner ses sources. On ne peut pas dire « vous avez une erreur », ça, non. Il faut permettre à Robert, en l'occurrence à Robert Estienne ici, de vérifier cette assertion. C'est une erreur, vous avez oublié ci, vous avez oublié ça. Et Ambroise Paré, dans la préface au lecteur, dit aussi ceci. Je fais voir par ce mien œuvre, discourant plusieurs choses singulières, parvenues en mes pratiques, est-ce histoire desquelles pour leur donner plus de foi, je nomme les lieux, les patients et les assistants, afin qu'à mon imitation, les jeunes chirurgiens s'encouragent de faire comme moi, ou mieux s'ils peuvent, et d'y gagner le lot que j'ai acquis par ma diligence, en laquelle, s'ils voient que je manque en quelque endroit, ils me feront plaisir de plutôt me remontrer ma faute gracieusement, que non pas user de calomnie, vu que je ne suis homme si entier en mes opinions que je ne reconnaisse facilement ma faute quand elle me sera montrée. Donc, voilà. Si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, que vous avez disséqué, quoi, dites-le moi, mais gentiment, mais ne vous fichez pas de moi devant tout le monde. Hein. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'un peu à la fois, la science laisse de côté ce qui n'est pas contrôlable. Et au XVe siècle encore, dès le XVe siècle, on publie la première traduction à Venise de la Géographia de Ptolémée, sans cartes. Puis, la Géographia, c'est un manuel pour dresser des cartes. Puis, il y aura avec cartes un peu plus tard. Mais au fur et à mesure des éditions, il y aura des corrections et des additions. Et la première édition complétée, corrigée, avec 28 cartes sur livre, c'est celle de Mercator à Cologne en 1578. Donc il a fallu imprimer Ptolémée pour que des gens un peu partout réagissent et finalement, un peu à la fois, on complète, on corrige et on arrive à l'édition de Mercator en 1578. Donc un siècle pour que les gens réagissent. Et de même, le premier atlas moderne, c'est le Théâtrum d'Abraham de l'Anversois, Abraham Ortelius, publié en 1570. Et au fil des éditions, cet atlas est mis à jour et l'ouvrage est complété par des cartographes. Et Ortelius lui-même va solliciter des cartographes un peu partout. Mais il ne va pas prendre, publier sous son nom. Il va donner à la fin de l'ouvrage une liste de 97 cartographes qui l'ont aidé. Donc il a donné ses références et il n'a pas tiré la couverture à lui. Hein, ça, c'est véritablement la démarche scientifique qui s'est installée. Pour la médecine, c'est la même chose. Hein. Il a fallu imprimer Galien pour qu'on le dépasse. Alors, la multiplication des exemplaires renforce aussi l'impact des connaissances et des idées. Et un exemple assez remarquable est celui de la réforme protestante, qui a trouvé dans l'imprimerie l'instrument indispensable à sa diffusion. Il n'est pas sûr que Martin Luther ait fait afficher ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en octobre 1517, mais ce qui est certain, c'est que rapidement, ils ont mobilisé les consciences. En une quinzaine de jours, les thèses furent répandues d'un bout à l'autre de l'Allemagne et en un mot dans toute l'Europe. L'imprimerie fut reconnue en tant que nouveau pouvoir. Entre 1517 et 1520, les 30 publications de Luther dépassèrent probablement les 300 000 exemplaires. Sans l'imprimerie, une révolution d'une telle ampleur n'aurait pu avoir lieu. Le luthéranisme fut d'emblée l'enfant du livre imprimé. Grâce à ce véhicule, Luther fut en mesure d'imposer de façon exacte, standardisée et ineffaçable ces doctrines qui marquèrent de façon indélébile l'esprit de l'Europe. Pour la première fois de l'histoire, un large public jugea la valeur des idées révolutionnaires par l'intermédiaire d'un moyen de communication de masse associant à l'emploi de la langue vernaculaire l'art du journaliste et celui du caricaturiste. Voilà, il en va. Donc l'imprimerie a véritablement promu la cause luthérienne et a donné également un essor considérable à la pédagogie, puisque nous avons ainsi le manuel scolaire. Mais je vais m'attarder quand même un peu au plus grand de son temps. Je ne dirais pas de chez nous, mais de son temps. Christophe Plantin. Christophe Plantin, né vers 1520 dans les environs de Tours, est arrivé rapidement à Anvers, et il le dira lui-même, attiré par cette métropole commerciale, culturelle. Il y avait des marchands espagnols, portugais, italiens, français, allemands. Relieur de son métier, il travaille pour la bourgeoisie, il relie des livres, il entoure de cuir des coffrets. Et c'est en portant un de ces coffrets à Gabriel de Caillas, qui était secrétaire de Philippe II, qu'il reçoit un coup d'épée dans l'épaule. Et il a certainement des problèmes et il s'engage alors dans l'imprimerie. Mais une question se pose et reste sans réponse et elle le restera, ça c'est clair. Comment ce petit relieur émigré arrive à Anvers et à l'argent nécessaire pour monter une entreprise ? Il lui faut une maison. il lui faut presse, caractère, papier, tout ça coûte un prix considérable. Alors, il se peut qu'il ait été approché ou se soit lui-même dirigé vers une secte hétérodoxe, Huis der Liefde, qui était dirigée par un Hollandais, Hendrik Niklaas. Celui-ci prônait la tolérance, tolérance religieuse bien sûr, et accordait au rite un sens symbolique. Les partisans, peu nombreux, étaient des gens aisés, mais qui devaient se montrer tout à fait bons catholiques devant tout le monde pour ne pas mettre en danger les autres adhérents. C'est ce que fera Christophe Lantin. Il va donc imprimer clandestinement pour la secte. Et en 1562, il y a une descente de police dans l'imprimerie, on découvre un pamphlet calviniste. On prend trois imprimeurs de Plantin, dont je ne connais pas le sort ultérieur. Et Plantin se trouvait à Paris à ce moment-là. Il reste là un an en attendant que les choses se tassent. Mais quand il revient, les financiers, les créanciers ont vendu son bien. Mais heureusement, il y a un financier, Cornelis van Bombergen, qui se rend compte du potentiel de ce jeune imprimeur. Et il lui donne l'argent nécessaire et ils vont monter ensemble donc l'Officina Plantiniana, qui ne durera pas longtemps, mais qui laisse à Plantin beaucoup de matériel et des connaissances suffisantes pour s'insérer dans de nombreux domaines. C'est le point de départ d'un énorme succès. Mais hélas, vous savez, 1566, c'est ce qu'on a appelé chez nous la furie iconoclaste. Alors Plantin prend peur à nouveau et il multiplie les lettres à des gens influents, témoignant de son orthodoxie catholique, de sa soumission au roi. Et il a l'idée de republier une Bible scientifique, scientifiquement une Bible. Et il a pensé à reproduire la Bible polyglotte d'Alcala en Espagne, donc en hébreu, en chaldéen, en grec et en latin. Et il s'en est ouvert à Gabriel de Cayas, qui est le secrétaire de Philippe II, mais retourné en Espagne. Philippe II accepte, mais il envoie tout de suite son chapelain, Arias Montanus, un grand orientaliste, pour surveiller l'imprimerie. Il ne fallait pas que Plantin modifie quelque peu le texte de la Bible avec la Bible, par exemple, les traductions d'Erasme, des commentaires divers. Il fallait que ce soit la bonne orthodoxie catholique. Mais ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que les deux hommes se sont tout de suite très très bien entendus. Et Arias Montanus investit beaucoup dans le travail. Il a traduit personnellement des textes araméens en latin. Il a écrit la plupart des traités qui constituent la valeur de l'apparatus. Et, j'oubliais de le dire, il a ajouté une cinquième langue, le syriaque. Donc, il y a cinq volumes pour la Bible et trois volumes d'apparatus où Arias Montanus s'est entouré de collaborateurs éminents. Guy Lefebvre, Nicolas de la Baudrie, des orientalistes français, Willem Canter, un helléniste, Andreas Mazus, quelqu'un de chez nous qui est un spécialiste du syriaque. Et donc tout cela, ça fait un monument au point de vue typographique aussi. Voilà. La Bible polyglotte, hébreu, chaldéen, grec, latin. Et pour le Nouveau Testament, il y aura aussi le syriaque, chaldéen ou araméen, c'est la même chose. En plus de ça, vous voyez, ceci, c'est une illustration, donc il faut payer des graveurs. Donc voici une page de gauche, le texte en hébreu, page de droite, la traduction latine, la Vulgate, basée sur la traduction de Jérôme. En bas, la paraphrase en araméen, mais en caractère hébreu. Et la page de droite, le grec dans la version des Septante, la traduction latine du grec et la traduction latine de la paraphrase. si la version de Septante, je passe, si vous avez une question à ce propos-là, vous me le demanderez ultérieurement. Voilà. Donc le premier volume paraît en 1569 et la fin 1572-73. N'oubliez pas que l'hébreu s'écrit et se lit de droite à gauche et que les autres langues de gauche à droite. Donc il faut que les deux coïncident. C'est un casse-tête énorme. Et Adrias Montanus est aussi chargé du privilège, d'acheter des privilèges, parce qu'un tel travail considérable, il se peut aussi qu'un autre imprimeur se dit « Tiens, je vais recopier page par page, je n'aurai pas tout le travail préparatoire à faire, je vais prendre un papier de moins bonne qualité et mettre sur le marché la même chose à moindre prix. » Et pour le premier, c'est la faillite. Donc, pour éviter cela, on achète un privilège auprès des autorités civiles. Mais le privilège est valable seulement sur le territoire du prince qu'il a accordé. Alors Arias Montanus est parti en Italie, il a eu un privilège dans les États du Pape, un privilège par le doge de Venise, un privilège pour l'Empire, un privilège en France, un privilège Aragon et Castille, un privilège chez nous, et un privilège pour 20 ans, ce qui est une chose unique. En général, c'est 6 ans, 10 ans. La durée du privilège dépend de l'importance du travail investi. Évidemment, les privilèges, on peut acheter un privilège dans un autre pays aussi. Voilà pourquoi Arias Montanus a fait tout le tour, pratiquement de l'Europe occidentale. Donc les archives de Plantin, on trouve parfois mention du prix payé pour un privilège. Parce qu'en même temps, pour le pouvoir, c'est intéressant. C'est une rentrée et il a aussi un œil sur ce qui est publié. En 1566, il paye en moyenne à l'autorité civile 2 florins et en 1573, 6 florins. Mais l'approbation des autorités ecclésiastiques, donc les autorités civiles donnent leur accord à condition que l'autorité ecclésiastique ait aussi donné son accord. Mais l'autorité ecclésiastique ne peut pas se faire payer. Ne peut pas se faire payer pour l'enseignement, ne peut pas se faire payer pour ce genre d'examen. Mais les cadeaux sont les bienvenus. Alors voici un exemple que j'ai trouvé dans Léon Voûte. Plantin écrit « J'ai fait présent à Louvain, au curé de Saint-Pierre, d'un fromage d'Auvergne et de 6 petits paniers de pruneaux, coûtant le tout 2 florins 3 stuiver. » Donc les cadeaux sont les bienvenus. Alors lors de la reconquête des Pays-Bas par Alexandre Farnèse, donc sous Philippe II, Plantin prend peur à nouveau parce qu'il avait contribué à créer une imprimerie calviniste à Vianen, près d'Utrecht. Et celui qui dirigeait cette imprimerie figure dans ses états de salaire. Alors il a peur et il va s'installer à Leyde. Il y restera de 1583 à 1585. Il reviendra après la prise d'Anvers par Alexandre Farnèse en 1585. Et il va aussi imprimer à Leyde. Mais après 1585, la contre-réforme catholique, une véritable chape de plomb s'est abattue sur le pays. Et d'ailleurs, pour Plantin aussi, avant, dans les années 1570, il avait 16 presses. Il n'en aura plus que 4 à partir de 1585. Donc une presse demande 2 pressiers, 2 compositeurs, plus des encreurs, etc. Donc il y avait une centaine de personnes chez Plantin qui travaillaient. Donc, et il ne publiera plus que des choses tout à fait conformes à la contre-réforme catholique. En 34 ans, il publie environ 2450 ouvrages. Et si on décompte des formulaires, etc., ça arrive à environ 1860, une moyenne de 55 par an, tout à fait stupéfiante. Donc il publie, j'ai fait des comptages, comme ouvrage religieux, environ 33% de sa production. Ouvrage humaniste, 35%. Mais parmi les humanistes, moi j'ai compté aussi les grammaires, les dictionnaires, etc. Donc pas uniquement les auteurs qu'on appelle humanistes. Le droit et les sciences, 15%. Mais 15% par rapport à ses concurrents, c'est énorme. Et le droit, je crois, quelques pourcents. Donc dans le domaine scientifique, il a eu l'audace de publier une littérature hautement spécialisée, à faible tirage. Donc le coût initial ne pouvait se répartir que sur un nombre limité d'exemplaires. Par exemple, quand il est à Leyde, il publie Simon Stévin, le Brugeois, un flamand passé au calvinisme qui a dû partir à Leyde pour des raisons religieuses, pour ne pas avoir sa tête coupée. Hein? Alors, il publie de Tinde, la dîme, qui est le premier traitement systématique des fractions décimales. C'est un ouvrage, un élément capital dans le domaine des mathématiques. Je n'expliquerai pas le développement. Ça, c'est autre chose. Si quelqu'un peut le faire dans l'Assemblée, c'est bien. Donc, il le publie à Leyde en 1585. Et il a aussi publié à Leyde l'arithmétique du protestant français Pierre de la Ramée. Il va publier aussi des livres de comptabilité. Voici un peu un extrait de privilège. La Majesté royale a donné privilège à Jean Wasberg, imprimeur juré de la ville d'Anvers, de pouvoir imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer les dialogues de Jean-Louis Vivès en français et en flamand, défendant à tous imprimeurs, libraires et autres quiconque de faire le semblable, ni ailleurs imprimer, vendre ni distribuer en tous ces pays, sous peine de confiscation des livres imprimés et par-dessus ce vin carolus d'amande, etc. Donc la botanique, il publie aussi de la botanique avec 22 éditions. Elle est surtout descriptive, mais avec les simples et les aromates, elle traite aussi des applications médicales des plantes. C'est Rambert Dodonné ou Rambert Dodouns. Alors, Christophe de Lobel ou Lobelius sur les plantes et les racines. Voici par exemple les exemples de pavot. Il va aussi publier, il ne publie pas en fait André Vézal, le grand œuvre d'André Vézal, mais il va publier ce que l'espagnol Juan Valverde a fait, il va le faire traduire en latin, publier des planches anatomiques inspirées de Vézal, et il va ajouter le résumé de Vézal. Voici, je parlais tout à l'heure d'Ortelius, mais ceci, il n'a pas publié l'édition Princeps, c'est-à-dire la toute première d'Abraham Ortelius. Mais il a publié ici le petit théâtre du monde, c'est-à-dire un atlas de poche. C'est un petit machin comme ça. Hein? Voilà, le Hainaut. Et on peut trouver Mons. Ah, mais vous pouvez retrouver vous-même, mais moi, si je montre, ça ne se verra pas. Mons, Valenciennes, Bavay, Bougny, Thuin, La Haine, Condé, Beaumont, etc. Vous me direz, c'est un peu approximatif, mais c'est la première fois quand même. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Bon, la Chine, ça, on peut moins contrôler, évidemment. Alors, en médecine, il publie des traités. Oui, il publie aussi, ce n'est pas très clair ici parce que je l'ai pris dans un livre de la maison Plantin, le langage bas-allemand, donc flamand, traduit en français et en latin. Alors, il publie également les dialogues de Jean-Louis Vivès, cet Espagnol qui a quitté l'Espagne et vécu dans les Pays-Bas. Important pour l'éducation. Donc traduit en latin et en français, en flamand, pour la commodité de la jeunesse. Voici comment ça se présente, ces dialogues. L'école de Skoll. Alors, voilà. Oh, la belle école est magnifique. Je ne pense pas qu'il y en ait en cette université une plus belle. C'est bien jugé à toi et davantage, ce qui est plus à profit qu'il y a ailleurs, maître plus savant ni plus sage, et qui enseigne de plus grande dextérité. Il faut donc qu'il se fasse ici grand avancement de discipline, et avec bref moyen d'apprendre. Pour combien enseigne-t-il ? Va-t'en d'ici, maintenant, avec cette demande si laide et si importune. Une chose de si grande importance, faut-il s'enquérir du prix ? Alors, on enseigne, on demande combien ? Combien ça coûte d'aller à l'école ? Oh, attends, on ne doit pas demander le prix pour ça, c'est une chose tellement importante. Vous voyez, ce sont ces dialogues comme ça, quotidiens. Alors, les conjugaisons, l'instruction, mon propre est nécessairement requise pour ceux qui désirent apprendre français, italien, espagnol, flamand. Donc, il y a des comparaisons de quatre langues comme ça. Hein, et nous sommes en 1558. Alors, les œuvres d'Ambroise Paré, il publie des traités donc, d'hygiène, de pharmacopée, d'épidémiologie. Je reviens au précédent. Je vois que le temps passe et je vais aller un peu vite. Français, on va se parer. Oui, j'ai signalé donc dans le projet que je parlerai donc d'Ambroise Paré, qui exerce d'abord à l'Hôtel Dieu à Paris. Devient chirurgien d'armée. Le chirurgien n'est pas médecin, hein, n'est pas allé à l'université, ne parle pas le latin. Et jusqu'à la Révolution, les professions de médecin et chirurgien sont totalement séparées. Les chirurgiens, comme les apothicaires, on les appelle des gens de petit métier, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec leurs mains, tandis que le médecin parle le latin, dit ce qu'il faut faire, mais ne touche pas. voilà. Alors, pendant quelques décennies, il participe à des campagnes au service du roi et il doit faire face sur place à pas mal de blessures. Il observe et fait part de ses observations et celles-ci sont soumises à ses collègues. Nous avons vu au début, il y a quelque temps, qu'il disait « Dites-moi aux autres chirurgiens si je fais des erreurs, mais ne le criez pas sur tous les toits. » Alors voici des exemples, instruments requis à tirer les choses étranges, donc des balles, etc. Et comme il doit amputer sur place, il propose des mains artificielles, portrait de la main artificielle, la figure suivante se montre le dehors de la main et le moyen de l'attacher au bras ou à la manche du pourpoint. Description du bras de fer, description de la jambe de bois. Donc, voyez, nous sommes en 1575. Voilà. Et ces expériences, il va d'ailleurs refuser la cautérisation à l'huile bouillante pour les plaies sur le champ de bataille. Et remplacé par des topiques antalgiques, donc qui agissent à l'endroit voulu. Et il va publier, après ça, méthode de traiter les plaies faites par des arquebuses et autres bâtons à feu. Comme il doit amputer sur place, il va aussi s'insurger contre la cautérisation au fer rouge et la remplacer par la ligature des vaisseaux. Et c'est ainsi qu'il sera au chevet de Henri II. Dans un tournoi, vous savez qu'Henri II, qui avait un home dans un tournoi, l'adversaire a lancé sa lance juste là où il y a les yeux. Alors, vous savez, dans des endroits pleins de poussière, pleins de crottins de cheval aussi, il faut bien dire. Alors, bon, et on a appelé Ambroise Paré et aussi André Vézal, notre André Vézal à son chevet, mais rien n'y a fait. Il est mort, Henri II est mort dans d'atroces souffrances. Il a aussi mis au point donc, des instruments, comme vous voyez, pour retirer les balles et autres objets des plaies. Il a mis au point donc, ces instruments chirurgicaux et il écrit en français. Et les médecins à Paris diront qu'il va déshonorer cette science médicale. Alors, ceci, c'est assez curieux, c'est dans notre exemplaire. Il parle des monstres aussi. Et l'exemplaire vient du couvent des Capucins de Mons. Alors, chaque fois qu'il y a un sexe, on a mis de l'encre à cet endroit-là. Donc, mais ça a percé aussi de l'autre côté. C'est un peu curieux pour des Capucins. Donc, enfin, bref. Alors, un autre ouvrage va lui valoir aussi des critiques acerbes. La momie, la licorne, des venins, de la peste. Bon, ça, je vous en parlerai si vous voulez, parce que je voudrais voir quand même la censure, un peu. Bon, pour la licorne, par exemple, on disait que la corne de licorne trempée dans une boisson permettait de dire que c'est empoisonné ou pas. De même, en buvant dans la boisson dans laquelle on avait trempé, c'était à préservateur de poison. Alors il dit, plusieurs tiennent que si l'on fait tremper dans l'eau et que cette eau, si on fait tremper la corne de licorne dans l'eau et que de cette eau on fasse un cercle sur une table, puis que l'on mette dedans le dit un scorpion ou une araignée ou un crapaud, que ces bêtes meurent et qu'elles ne passent pas et qu'elles ne passent aucunement par-dessus leur cercle, voire que le crapaud crève. Je l'ai expérimenté et trouvé tout cela faux et mensonger, car les 10 animaux passent et repassent hors du circuit du cercle, etc. Donc voilà, ça, évidemment. Il y a aussi la poudre de momie, mais enfin ça, je n'en parle pas parce que ça va nous mener loin aussi. Alors, oui, ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Bon, je vous parlais, grâce aux archives de Plantin, on connaît l'importance des respectifs de différents postes. Et quand il est question, vous voyez le troisième, Juan de Valverde, lorsqu'il est question de cuivre et d'impression de cuivre, sur un total de 788 florins, il y en a 600 qui concernent l'illustration. C'est sidérant, sidérant. Oui, c'est encore des choses qui ont beaucoup de succès, l'arithmétique. Oui, mais pour préparer, il faut que l'on prépare aussi. On ne s'engage pas dans une impression sans préparation. Et voici la célèbre chronique de Nuremberg, 1493. On ne s'est pas engagé tout de suite comme ça. Voilà les illustrations, on imprime. Non, on a dû préparer. Voici par exemple Rhodes. Le plan de Rhodes. Vous voyez deux vaisseaux, des moulins. Vous pouvez repérer deux grandes tours, un clocher, 6 personnages. Et voici comment on avait préparé. 6 personnages, les vaisseaux, des moulins, des tours. Donc tout cela avait été fait préalablement. Donc celui qui a imprimé savait très bien où commencer et où terminer. Donc il y a tout un travail préparatoire. Vous comprenez donc que si quelqu'un, après, commence à faire cela en n'ayant pas tout ce travail préparatoire, eh bien, il a moins d'argent à dépenser. Alors, bon, je vais donc passer quand même maintenant à la censure. Donc, tout pouvoir a tendance à assurer et à encourager la diffusion d'écrits qui lui sont favorables et à empêcher la diffusion d'écrits qui lui sont défavorables. Dans le premier cas, c'est la propagande et dans le second cas, c'est la censure. Je vais voir la censure religieuse et la censure politique. Dans la censure religieuse, il y aura la censure de l'Église catholique, la censure protestante. La censure d'abord de l'Église romaine. En 1479, déjà, les papes vont intervenir par une série de bulles qui concernent l'ouest de l'Allemagne, qui est bien sûr le berceau de l'imprimerie, et qui demandent une lecture préalable à l'impression. Les imprimeurs contrevenants seront mis à l'amende. Mais l'apparition de la réforme protestante va évidemment radicaliser la volonté de censure. Dans les Pays-Bas, les premières listes de livres prohibés paraissent dans les placards de Charles Quint en 1521. Ces placards ordonnent de brûler les ouvrages de Luther et imposent une autorisation à la fois royale et ecclésiastique pour toute publication. Et en 1540, Il est stipulé que la page de titre doit comprendre le nom de l'auteur, le nom de l'imprimeur et le lieu de l'impression. Viennent ensuite des catalogues. Et j'ai ici le catalogue, le préambule du catalogue de 1546, parce qu'il comporte le mandement de Charles Quint. Le mandement, c'est un ordre écrit et rendu public. Que aussi plusieurs pédagogues et maîtres d'école se sont avancés en instituant les enfants lire et apprendre plusieurs nouveaux livres composés par personnes réprouvées ou suspectes d'hérésie et desquels les auteurs sont notoirement hérétiques, non convenables à l'institution des jeunes écoliers et contraires aux bonnes mœurs, dont grand inconvénient pourrait advenir et s'ensuit si après. Pour ceux est-il que désirant sur toute autre chose pourvoir à l'extirpation des dites erreurs et mauvaises sectes, après avoir lu, etc., etc. Donc c'est assez stupéfiant. Il demande à sa sœur, la duchesse de Hongrie, qui est gouvernante à ce moment-là, d'appliquer ce qu'il dit. Donc, mais en fait, venons-en à ce qui est dit. Il est interdit d'imprimer, de vendre, d'acheter, de détenir des livres figurant dans le catalogue. Les imprimeurs et libraires qui détiennent ces livres doivent les remettre à l'autorité pour être brûlés. Les imprimeurs doivent obtenir une autorisation pour imprimer. Les imprimeurs et libraires doivent avoir un domicile fixe. La visite des boutiques a lieu au moins 2 fois par an. La vente des livres est réservée aux libraires patentés. La vente ambulante est interdite. On interdit même des livres qui concernent les arts libéraux. Mais pourquoi ? Mystère. Peut-être parce qu'il y a un imprimeur protestant, un traducteur ou un commentateur protestant. Et vous me direz, mais les livres qui sont imprimés avant 1546, eh bien, ils ne peuvent être vendus, ni lus, ni conservés sans autorisation. Donc ça concerne aussi les possesseurs de bibliothèques privées. Mais le catalogue qui est émis par une université, par une autorité locale, n'est valable que localement. Donc, va surgir alors cette idée d'avoir des dispositions qui seront valables pour toute la chrétienté. Et en 1549 est instaurée la congrégation romaine de l'Inquisition ou Saint-Office, qui est compétente en matière d'hérésie, et les livres constituent une partie de ses activités. Le pape Paul IV fait rédiger un catalogue auquel il donne le nom d'index, mais plusieurs épisodes, je passe. Le véritable index, c'est celui de Pie IV en 1564. Il comporte 1012 titres. Interdiction d'imprimer des ouvrages hérétiques, impies, obscènes, traitant de sciences occultes. S'il y a une Bible en langue vulgaire, l'évêque va juger si on peut l'imprimer. Des ouvrages non interdits sont expurgés. Le manuscrit doit être déposé avant l'impression, être examiné gratuitement et rapidement. On va visiter les librairies, les bibliothèques, etc. Et en 1571, la censure des livres passe à un organisme spécialisé, la congrégation de l'index. L'index romain, le dernier, date de 1948. Mais il faut ici bien distinguer deux types de sanctions. Pour l'Église, elle va donner des pénitences ou excommunier. Mais lorsqu'il s'agit d'infliger des amendes, d'emprisonner, de tuer, ça, ce sale boulot, c'est pas pour l'Église. Elle remet au bras séculier, c'est-à-dire qu'elle remet au pouvoir civil. C'est une expression, mais remettre au bras séculier. Et c'est le pouvoir civil qui inflige les amendes, qui emprisonne et éventuellement la peine de mort. Quand il est question d'autodafé, il y a quelque chose d'assez effroyable qui s'est passé donc en 1492 à Grenade. Vous savez, c'est la reconquête par les souverains catholiques. Et on a fait à Grenade, c'est la dernière ville qui est le sud de l'Espagne, restée jusqu'en 1492, dominée, c'est beaucoup dire, par les Arabes. Et on a organisé un autodafé de manuscrits arabes. Ça veut dire que toute la science arabe qu'il y avait là est partie en fumée. Dans les Pays-Bas du Sud, chez nous, nous sommes d'un pays d'index reçu, c'est-à-dire que nous recevons l'index de Rome. Certains pays, comme la France, ne reçoivent pas. La France va condamner si la Sorbonne lui dit de condamner. Mais nous sommes dans un pays d'index reçu. Mais il y en aura d'autres. Aux 1012 titres, on va encore en ajouter. Et tous les index se situent sous le gouvernement du duc d'Albe, 1567-1573. Voilà, en 1570. Puis l'index expurgatoire, là, toujours chez Plantin, est imprimé. Il a pour but d'éliminer les propositions suspectes aux yeux de l'Église. Donc on va, dans les livres, signaler dans l'index expurgatoire ce qu'on ne doit pas lire. Et il y a des personnes mandatées qui vont contrôler les ballots de livres à l'importation, qui vont visiter les bibliothèques, etc., et qui vont contrôler si on a bien fait l'expurgation. Voilà ici, d'après les livres de notre bibliothèque, une expurgation. Bon. Oui. Mais il peut y avoir ça aussi. Et on dit dans les dates expurgatoires, à partir de la sixième, septième ligne, après tel mot, vous devez supprimer jusqu'à telle ligne, tel mot. Bon. Vous savez, il n'y a pas moyen d'enlever, on détruit tout. Mais quand même, on est assez content de voir qu'il y a des gens astucieux. Ils ont supprimé. Enfin, bon, on ne sait pas ce qu'est advenu par la suite, mais enfin, il y a peut-être quelqu'un là qui a commis, enfin, dans la marge. Enfin, voilà, les coupures à effectuer dans une série d'ouvrages. Évidemment, Rome n'accepte pas cet index-là, parce que c'est un condensé de tout ce qu'il ne faut pas lire, évidemment. Non, je passe encore beaucoup d'autres choses. Je vais donc maintenant m'attarder un peu à la cassure, à un autre exemple tout à fait révélateur de la censure dans nos pays sous Philippe II. On vient de voir que la cassure religieuse du XVIe siècle entraîne l'idée qu'une religion unique est un facteur indispensable à la sauvegarde des États en train de se former. Il y a un adage médiéval, une foi, une loi, un roi, qui constitue encore pour les princes du XVIe siècle, qui sont sensibles à la cohésion de leur royaume, le moyen d'affirmer leur pouvoir. Le pluralisme religieux est donc considéré par son existence même comme dommageable au maintien d'un État fort. Le débat est politique. La coexistence de plusieurs confessions religieuses au sein d'un même territoire ne risque-t-elle pas d'entraîner des tensions, voire la guerre civile? Et le débat est aussi théologique. Si on admet la présence d'autres communautés, est-ce que la religion dominante, c'est-à-dire la religion catholique, ne risque pas d'être en danger? Dans les Pays-Bas, donc chez nous, les dommages économiques qu'entraînerait le refus d'accepter une autre croyance constitue un argument majeur en faveur de la tolérance. Et il vaut mieux, pour maîtriser une situation, assurer le bien-être du pays par le développement des manufactures, par les échanges commerciaux, il vaut mieux permettre l'existence de deux confessions religieuses au sein d'un même territoire. Et au XVIe siècle, vous savez, les Pays-Bas sont très peuplés. Hein. Geoffrey Parker l'estime à 3 millions d'habitants, dont la majorité est située en Zélande, Hollande, Hainaut, Flandre et Brabant. Mais en 1563-64, il y a une crise économique, la dévaluation des thalers allemands qui prive les Pays-Bas d'une partie de leur clientèle et aussi l'embargo anglais, qui prive l'industrie brabançonne de transformation des draps de leur matière première. Les draps, quand on dit le drap tout seul, ça veut dire toute espèce d'étoffe de laine. Et la classe sociale la plus touchée est la classe moyenne, issue du commerce et de l'industrie. Elle va se tourner vers le calvinisme qui constitue, pour elle, de même que pour les plus pauvres, un espoir de changement. Voici ce que dit Herman van der Wee, un grand historien de l'économie. À ce moment précis, la classe moyenne, pleine de ressentiment contre un monde dans lequel elle commençait à vivre si précairement, se tourna pour de bon et en masse vers l'idéologie calviniste qui, depuis des années, tendait à lier le mouvement de renouveau religieux à une restructuration complète de la société et qui, depuis la stabilité économique des années 50, trouvait un écho grandissant dans le milieu artisanal. Calvin acceptait l'existence d'une société laïque comme une évolution historique irréversible et l'intégrait dans sa doctrine en lançant le principe de la carrière ouverte au caractère. Un tel principe s'accordait à merveille avec la mentalité d'une classe moyenne laborieuse, relativement aisée et avide de progrès, qui depuis quelques années était devenue victime des fluctuations d'une économie incertaine. Parallèlement au progrès du calvinisme, la répression s'intensifie, les exécutions se multiplient, mais ça ne fait rien du tout. Combien de temps encore? Parce qu'il y a aussi toute une série de choses qui apparaissent chez nous, hein, c'est chez nous. Et en 1565, il y aura des 66 des écrits qui vont essayer de faire ramener Philippe II à une acceptation, mais ça ne marchera jamais. Et notamment, c'est le cas de Guillaume d'Orange, vraiment un fin politique, celui-là, qui écrit un bref discours au roi Philippe pour obvier aux troubles et émotions pour le fait de la religion. Et le but de ce texte est clairement exprimé dès le début, servir la grandeur et la prospérité du roi. Tous arguments qui ne peuvent pas choquer le roi. Et on lui dit que les exécutions, imposer une religion par la force entraîne des exécutions, donc ça a le résultat inverse de ce qu'on voulait. Tandis que dans une société où il y a une stabilité politique, eh bien, on développe le commerce et l'industrie. Et on empêche des personnes, des gens importants dans les sciences et dans les lettres, de fuir leur pays. Rien n'y fait, parce que pour Philippe II, d'emblée, ça vient de Guillaume d'Orange, donc c'est très mauvais. Mais la noblesse catholique se rend compte aussi du marasme, et c'est ce qui aboutira au compromis des nobles, dont vous avez peut-être encore en souvenir, du moins le nom, en avril 1566. On demande au roi d'abolir les placards contre l'hérésie, donc d'empêcher l'exécution des gens que l'on suspecte d'hérésie. Mais comme d'habitude, Philippe II, il tergiverse, il attend. Donc début avril, le 5 avril 1566, et début août 1566, c'est la furie iconoclaste. Et la réponse du roi arrive quelques jours après. Il accepte de modérer les placards contre l'hérésie, pas de les supprimer. Mais puis il est informé de la furie iconoclaste. Et alors la répression à outrance va commencer. Et en août 1567, donc un an après, le duc d'Albe, à la tête de ses troupes, entre dans Bruxelles. Dès lors, le discours sur la tolérance n'est plus d'actualité. Guillaume d'Orange va encore essayer, mais rien n'y fera. Finalement, le roi prend conscience de la pertinence de certains arguments avancés et il va essayer, dont l'énorme préjudice économique causé au pays, il va essayer de ramener des gens au pays. Mais, bon, il va interdire à ses sujets de quitter. Il essaiera de les ramener après. Il empêche de quitter, sous peine d'être considéré comme coupable. Voici un de ces textes. Il est interdit de quitter le pays. Les bateliers et les charretiers doivent signaler à l'officier du lieu tout départ de personne. Les sujets qui, de par leur fonction, doivent vraiment quitter le pays, il faut qu'ils en avertissent les autorités plusieurs semaines à l'avance. Et les gardes des ports et des frontières sont chargés de vérifier qu'ils ne transportent pas les biens de personnes en fuite. Alors évidemment, pour bien faire son travail, un tiers ira au dénonciateur, un tiers à l'officier qui sera chargé de l'exécution et le troisième tiers pour le roi. Donc voilà, comme ça, tout va bien. Alors, le préjudice économique, oui, il va accorder grâce et pardon général, non, pour essayer de ramener des gens au pays. Mais le pardon est loin d'être général. Seuls sont concernés ceux qui, ayant été abusés par légèreté ou par leur jeunesse, ont méprisé les lois, placards et ordonnances en matière de religion. Ils ont, par ce fait, encouru des peines corporelles et civiles. Ils sont pardonnés, à condition que dans les 2 mois de la promulgation de ce pardon, ils abjurent leurs erreurs et accomplissent les pénitences prévues au nom du Saint-Père. N'ont pas droit au pardon les ministres du culte. Ministres, c'est-à-dire sont les pasteurs. Hein. Ceux qui ont saccagé les églises, ceux qui ont été condamnés ou bannis et dont le roi ne veut révoquer ni la condamnation ni le bannissement. Ceux qui ont œuvré contre l'Église catholique et contre l'autorité du roi. Ceux qui, en charge de justice, ont pris le parti de ceux de la religion. Ceux de la religion, c'est-à-dire les protestants. Les villes et communautés qui ont failli à leur devoir. Il veut ramener les exilés au pays, mais il ne sait rien. Tous ces imprimés sont diffusés, donc nul n'est censé les ignorer. On pourrait multiplier les exemples, mais ce n'est pas le but ici. Ce qu'il convient en revanche de prendre en considération, c'est que l'impression de tels documents a joué un rôle déterminant dans la vie quotidienne de nos prédécesseurs. Mais hélas, ils sont réduits la plupart du temps à quelques feuillets, qui ont disparu, qui ont été froissés entre des livres. S'ils ont de la chance, ils se trouvent dans un recueil factice. Et s'ils ont encore un peu plus de chance, ils se trouvent en tête du recueil factice. Donc quelqu'un a pu prendre note de ce qu'il y avait en tête, sans regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est souvent... Il y a aussi des libelles, des chansons, tout ça, c'est distribué par colportage. La censure protestante, ça va très vite parce qu'il n'y a pas d'index. Il y a aussi des censures, mais comme il n'y a pas de recueil de condamnation, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on ne sait plus ce qui a été condamné. Alors la censure politique, bon, ça, je dirais qu'elle existe toujours, un peu partout. Et même au XVIe siècle, certains ont essayé d'éviter les problèmes par la coexistence de plusieurs confessions religieuses. Notamment, il y a Guillaume d'Orange, il y aura en France Jean Bodin. Mais on peut se défendre contre la censure, on peut imprimer anonymement, on peut imprimer sous une fausse adresse, on peut imprimer dans un autre pays, dans une autre langue. Enfin, les astuces de nos prédécesseurs sont extrêmement nombreuses. Donc dans la seconde moitié du XVIe siècle, soit un siècle après son invention, l'imprimerie a parfaitement démontré qu'elle constitue une arme incomparable entre les mains du pouvoir, qu'il soit politique ou religieux. J'en viens rapidement à la conclusion, en ayant oublié pas mal de choses volontairement. Enfin voilà. Les livres, mais aussi les libelles, et les textes composés de quelques feuillets seulement sont le témoin des mutations intellectuelles et techniques qui ont traversé l'histoire. Ils sont le soutien de notre mémoire et nous renvoient l'image de sociétés aux intérêts variables, aux idéologies opposées. L'imprimerie est donc bien autre chose qu'une simple technique. À la Renaissance, elle fut un des acteurs du renouveau intellectuel. Mais ce n'est pas une invention figée, elle se trouve dans un processus d'innovation continue. À la Renaissance, nous avons appris à connaître le nouveau monde d'abord, les autres ensuite, par l'imprimé. Les livres, bien sûr, mais aussi les cartes, les gravures. C'est par ce moyen que l'Européen a montré, transmis, voire imposé sa propre culture. L'impression et la transmission des textes sont liés aussi à des facteurs matériels. Il faut une presse, il faut des caractères, il faut du papier. Il est aussi à des facteurs politiques ou religieux, ou les deux à la fois. Quant à la décision d'imprimer, avant comme maintenant, elle dépend de facteurs d'une autre espèce. L'imprimerie entraîne la mise en place d'une structure commerciale capitaliste. Il faut évaluer les risques encourus, il faut calculer le prix de revient. Tout cela nécessite une formation spécifique. Si au XVIe siècle, l'Europe occidentale a connu une véritable explosion du savoir, préparée d'ailleurs au Moyen Âge par une soif encyclopédique de tout connaître, c'est que les imprimeurs, c'est que les auteurs, les savants, les érudits, ont été aidés par les imprimeurs, beaucoup plus que ceux du Moyen Âge ne l'avaient été par les scribes. Arrivée avant l'imprimerie, la réforme protestante n'aurait pas eu le même impact. Elle aurait fait l'objet d'un débat entre théologiens. Il n'y aurait pas eu ces répressions sanglantes à outrance pendant des décennies. Après 1520, ce n'est plus le cas. L'imprimerie a donc fourni aux intellectuels le moyen de conférer à leurs écrits une audience jusque-là inconnue. Quant à la science, confrontée à l'expérience d'un grand nombre d'individus, elle entame peu à peu un processus d'accumulation sélective du savoir. On va délaisser ce qui ne relève pas de l'expérience mesurable. L'imprimerie a aussi bénéficié aux pseudo-savants, au langage plus accessible. La diffusion limitée du De Revolutionibus de Copernic et le peu de lecteurs capables d'en saisir la portée doit quelque peu tempérer l'impact de l'imprimerie en matière de science. Mais Simon Stévin, le mathématicien, écrit en flamand et Ambroise Paré écrit en français. Et l'imprimé a aussi généré la censure. Mais des imprimeurs et éditeurs audacieux vont trouver le moyen de contourner la censure en imprimant donc sous de fausses adresses, dans d'autres pays, sous d'autres dates, etc. La diffusion des textes et donc des idées qu'ils véhiculent implique aussi l'organisation d'un réseau commercial soumis lui aussi à la censure. Il y a les libraires. Pour ouvrir une librairie, il faut une patente. Mais il y a des colporteurs, ces gens insaisissables qui vont un peu partout et qui jouent un rôle très important dans la diffusion d'idées subversives censurées dans quelque domaine que ce soit. Ça, c'est le XVIIe siècle, mais c'est assez amusant. C'est à Paris. On vend la librairie, c'est aussi une mercerie. Et voyez le petit chien, qui sont là aussi, dans la... Curieusement, un petit toutou qui est toiletté comme maintenant, c'est au XVIIe siècle. Voilà, on vend des gravures dans les campagnes. Almana, qui achète mes belles images sur cuivre, gravées sur cuivre. Alors l'auteur et le libraire, ou l'auteur et l'imprimeur, l'auteur dit, moi, ce que je vais vous demander d'imprimer, ça va, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc ça a beaucoup de valeur. Et le libraire ou l'imprimeur dit, non, non, si je le fais, c'est pour vous faire plaisir, ça ne vaut rien du tout. Ben voilà. L'invention de Gutenberg a aussi fait l'objet de harangues à l'Assemblée législative. Il appartient au Sénat du genre humain d'honorer la mémoire du premier révolutionnaire, du premier bienfaiteur des humains. Nous trouvons dans la main de Gutenberg le fil de la régénération du monde. Et vous, législateurs, vous accélérerez le déroulement des félicités humaines en décrétant la translation solennelle des cendres d'un homme qui rallie tous les hommes dans la fraternité commune. Puis on répond, l'homme pour la cendre duquel vous venez de réclamer une place au Panthéon français, l'homme qui, par sa sublime découverte, a sauvé toutes les vérités et révèle à l'univers les crimes de la tyrannie et les bienfaits de la liberté, Gutenberg a droit, petite faute là, enfin bref, à la reconnaissance d'une nation dont la destinée est d'affranchir l'espèce humaine. Mais, et aussi Michelet, l'imprimerie, bienfait immense qui va centupler pour l'homme les moyens de liberté, sert d'abord, il faut le dire, à propager les ouvrages qui, depuis 300 ans, ont le plus efficacement entravé la Renaissance. Elle multiplie à l'infini les scolastiques et les mystiques, submergés de livres barbares du Moyen-Âge qu'on exhume à la fois. Les écoles subissent une déplorable recrudescence d'absurdité théologique. Je crois qu'il a tort, parce que il résonne dans le passé, pas dans son siècle. Et voici enfin, un dernier, Victor Hugo. L'architecture a été jusqu'au XVe siècle le registre principal de l'humanité. que dans cet intervalle, il n'est pas survenu une pensée un peu compliquée qui ne se soit faite édifice, que toute idée populaire a eu ses monuments, que le genre humain, enfin, n'a rien pensé d'important qui ne l'ait écrit en pierre. Alors, ce texte-là est vraiment très important parce qu'il démontre les liens entre la pensée d'une époque, les formes de son art et la manière dont elle organise ses messages, ce que d'aucuns, dans le passé, dans de grandes diatribes, n'ont pas saisi cette portée-là. Au XVe siècle, tout change. La pensée classique découvre un moyen de se perpétuer, non seulement plus durable et plus résistant. L'architecture est détrônée. Aux lettres de pierre d'Orphée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg. Le livre va tuer l'édifice. L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. C'est le mode d'expression de l'humanité qui se renouvelle totalement. C'est la pensée humaine qui dépouille une forme pour en revêtir une autre. Sous la forme imprimée, la pensée est plus impérissable que jamais. Elle est volatile, insaisissable, indestructible, elle se mêle à l'air. Du temps de l'architecture, elle se faisait montagne, s'emparait puissamment d'un siècle et d'un lieu. Maintenant, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. La Renaissance est une époque, je reviens à la Renaissance, fascinante parce que riche de bouleversements multiples. Elle a connu des personnalités remarquables qui sont toujours bien connues maintenant. Gutenberg, Barthélemy Diaz, Vasco de Gama, Christophe Colomb, Magellan, Machiavel, Erasme, Luther, Thomas More, Calvin, Copernic, Ortelius, Mercator. Je me suis efforcée de restituer ici la présence humaine en évoquant les débats majeurs qui ont traversé l'histoire. Vous avez pu, du moins c'est ce que j'ai souhaité, entrer au cœur des grandes questions politiques, religieuses, scientifiques, philosophiques, technologiques, confrontés aux découvertes, aux questions, aux erreurs de nos prédécesseurs. Vous parviendrez peut-être à percevoir dans l'expression de leurs idées, leurs espoirs et leurs craintes. En tout cas, le livre restera toujours ce qu'il fut, un moyen de communication, un objet de recherche, un instrument de pouvoir et un instrument de combat. Et c'est sur ce mot que je termine.
Et donc, comme promis, je me tourne vers vous pour voir qui commence, qui ouvre le feu pour poser l'une ou l'autre question ou faire un commentaire.
Non, je dis que je me sens un peu frustrée parce que je sentais que vous aviez tant d'autres choses à nous dire et que le sujet me passionne. Mais j'aurais voulu vous poser une toute petite question concernant Plantin. Oui. Donc, il a édité, il a imprimé des livres donc qui sont illustrés. Mmh. Est-ce qu'il avait des illustrateurs à demeure ? Est-ce que l'on sait quels étaient les illustrateurs, comment ils procédaient ?
Oui, c'est connu, hein, ça. Mais le domaine de l'illustration est un domaine à part. Oui. Hein, parce qu'il y a le concepteur, donc l'artiste, et il y a le graveur. Et tout ça, c'est pas vraiment le domaine de l'imprimerie. Mais alors, Plantin a aussi été astucieux. Jean-Jacques Hervec a parlé de Guy Chardin. Et Guy Chardin, c'est un ouvrage vraiment illustré. Et à un moment donné, Plantin rachète toutes les illustrations de l'ouvrage. Et simplement pour empêcher un autre imprimeur de les acheter et de republier le livre. Donc il a thésaurisé toutes les planches gravées pour empêcher un autre de publier. Il l'a gardé un moment et puis il l'a publié. Donc c'est l'objet d'un commerce aussi, tout ça, les gravures. Et les gravures, d'ailleurs, quand il y a dans la chronique de Nuremberg, 1493, des plans de ville, il faut pacifier, hein, parce que bon, quand il a des plans de ville de Nuremberg, de sa région, ça va, mais des plans de ville, là, l'île de Rhodes, Jérusalem, bon, c'est ce qu'il a dans des textes, mais ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Et puis, bon, peut-être qu'on achète un plan de ville et dans un autre livre, on va gratter le nom de la ville et l'utiliser. On n'est pas à ça près, hein, à ce moment-là. Non. C'est ça. Mais le domaine de l'illustration, ça, il faut faire appel à des artistes dans ce domaine-là. Il y a ce que j'ai montré, l'homme écorché. Là, c'est une gravure sur cuivre. Hein, et on le sait. Quand on a le livre devant soi, on peut très bien se rendre compte de la gravure sur cuivre parce qu'il y a tout autour une petite cuvette. Donc, on a appuyé. Hein, donc, la planche de la plaque de cuivre marque sur le papier. Mais lorsqu'il s'agit de xylographie, la xylographie est aussi passée dans l'imprimerie. Or, je vous ai dit au début que les xylotypes, chez nous, on ne peut pas imprimer de l'autre côté parce qu'il faut appuyer très fort. Mais avec la presse à imprimer, ça peut aller parce qu'on humidifie légèrement le papier. Donc, on ne doit pas appuyer aussi fort. Quand on fait tomber la platine de la presse à imprimer, l'impression est uniforme, mais il faut évidemment que les caractères et les dessins ou les lettres du xylotype soient au même niveau. Et ça se fait. Ce sont des artistes, bien sûr, mais ça se fait.
Moi, j'avais une petite question qui était, j'ai pas bien compris exactement en quoi consistait les privilèges dont tu as parlé.
Oui, le privilège, oui. Le privilège, c'est pour éviter les contrefaçons. Hein? Parce que, comme j'ai dit, il y a un travail préparatoire extrêmement important quand on imprime. Vous avez vu la chronique de Nuremberg. C'est moi qui fais ça?
Non, c'est moi.
Ah bon? Il y a toute une préparation. Et si, bon, la chronique de Nuremberg, c'est une chose, mais ça arrive avec d'autres livres. Par exemple, les livres des grammaires, des dictionnaires, les méthodes pour apprendre le flamand, le français. Il y a toute une préparation. Et si un autre imprimeur prend l'ouvrage, imprime page par page, en commençant la première lettre, la dernière, il n'a pas le travail préparatoire à faire. Il n'y a pas le travail de pliage des feuilles, etc. Il sait bien dans quel ordre tout va se placer. Je dois... Ça va ou pas, ou est-ce que je m'exprime mal? Et alors, il va éviter, en achetant un privilège, il va obtenir de l'autorité civile le privilège d'être le seul à pouvoir imprimer ou faire imprimer par quelqu'un d'autre ou vendre tel livre bien précisé ou telle catégorie de livres en ayant un temps prévu.
C'est ce qui survit aujourd'hui sous forme de propriété qu'un éditeur a sur un texte. C'est très proche.
Oui, seulement là, c'est pour une durée beaucoup plus grande et c'est de manière internationale, tandis qu'à ce moment-là, le privilège n'est valable que sur le territoire du prince qu'il a accordé. D'où la démarche d'Arias Montanus d'aller dans toutes sortes de pays pour acheter aussi un privilège. Hein? Non, ce n'est pas l'auteur. Maintenant, c'est l'auteur qui est protégé. Oui. Mais l'auteur, la propriété intellectuelle, c'est le 19e siècle, hein, reconnu. Ça a commencé en Angleterre début du 18e, ou peut-être même fin du 17e. Et puis, à la Révolution française, mais encore une protection de 10 ans après la mort de la personne. Et puis, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Hein. Les conventions de Genève, conventions de Berne d'abord, conventions de Genève.
Voilà. Oui, j'ai bien compris.
Oui. Est-ce que ça vous a aidé, les noms? Oui.
Un détail, madame.
Oui.
J'ai remarqué qu'il y avait quelquefois quelque chose qui était écrit dans les marges et qui avait l'air d'être imprimé. Qu'est-ce que c'est?
Ah, ce sont des manchettes. On appelle ça des manchettes, c'est ce que maintenant ce sont les notes en bas de page. Oui, et alors c'est à côté. Oui. On appelle ça manchette maintenant, on dit notes de bas de page, notes de pied, je crois. Enfin, voilà.
J'arrive. Non, on m'a interdit de... J'ai reçu une consigne tout à fait stricte.
Que je dois respecter. Voilà, j'aurais voulu savoir à partir de quand on voit de la couleur apparaître dans l'imprimerie.
Ah, dans l'imprimé. Donc, en général, les couleurs, elles se font après coup. Après coup, à la main. Et il y a aussi, au XVIe siècle, les protestants, etc., qui ont des couleurs privilégiées. C'est des couleurs très, très sobres, comme on voit dans les peintures, ces beaux calvinistes hollandais en noir avec une fraise toute blanche. Là. Donc le noir, le blanc, le gris. Les autres couleurs ne sont pas acceptées. Donc ça revient aux propriétaires de colorier. Parce que les couleurs, plusieurs couleurs à la fois, c'est le XVIIIe siècle. Un certain Jacob Leblon, avec trois couleurs, etc. Encore ça, des couleurs, c'est un domaine particulier. Et on ne sait pas, quand on voit un texte colorié, on ne sait pas si la couleur a été faite à l'époque ou après. Il faudrait une étude chimique du composant des couleurs pour savoir que la couleur a été appliquée à telle époque et pas à telle autre. Donc avoir une planche coloriée, pour nous, ça ne dit rien du tout si ce n'est pas examiné chimiquement des composants.
Mais au XVIe siècle, il y a quand même déjà des pages de titres, notamment, avec du rouge.
Oui, mais ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas l'illustration.
Non, mais je veux dire...
On fait ça en deux temps.
Oui.
On imprime une page, donc il y a une page, il y a des caches. Ça passe une première fois sur la presse pour le noir. Et puis, on cache tout ce qui est en noir. On laisse un titre en rouge, par exemple. Et alors, on imprime le rouge. Donc, en deux temps.
J'arrive.
Ah, encore quelqu'un.
Je m'interroge sur la notion d'incunable et de post-incunable.
Ah oui, oui.
En rapport avec les imprimés.
Oui.
Est-ce que c'est dans la ligne du temps ou...
Un incunable, c'est un livre imprimé jusqu'à Pâques 1501. Pourquoi pas 1501 ? C'est une question de calendrier. La réforme du calendrier, chez nous, c'est Philippe II, au 1er janvier 1576. Mais le temps que ça se passe un peu partout dans nos régions, ça prend du temps. Donc, au XVe siècle, au début du XVIe, c'était le style de Pâques. On commençait l'année à Pâques. Donc, évidemment, on allait jusque... Comme Pâques est une fête mobile, ça pose un problème. Il y a eu le style de la nativité, donc on commençait l'année à la Noël, mais ça se termine peut-être vers le XIIe, XIIIe siècle. Puis il y a le style de Pâques, ce qui embête tout le monde, parce que quand on voit une date, si on n'a pas le mois, et si on ne sait pas quand a eu lieu Pâques cette année-là, ça pose problème. Donc ça, et le post-incunable, c'est après. Le post-incunable, c'est ce qui ressemble un peu à un incunable. Mais bien sûr, si c'est au mois de mai 1501, il est évident que l'imprimeur qui publie en janvier 1501, il continue en mai 1501, ou 2 ou 3, c'est un post-incunable. Hein? Oui. C'est ça, votre question ?
Oui, mais le mot
incunable... Ah, ça veut dire le berceau de l'imprimerie. Imprimé dans le berceau de l'imprimerie.
Alors, je crois qu'on peut terminer en remerciant encore Marie-Thérèse Isaac. Je crois vraiment qu'on a tous été passionnés par ce projet.